nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la formation par satellite des professeurs des écoles en Haïti, nous vous en avions déjà parlé ici à Canal Académie, en compagnie de Jacques Blamont de l'Académie des sciences, cela en était encore au stade du projet. Aujourd'hui, en 2012, c'est une réalité grâce à un partenariat entre l'Académie des sciences, le CNES, l'Université numérique francophone mondiale et Eutelsat. Plusieurs EFACAP, écoles fondamentales d'application, centres d'appui pédagogique, l'équivalent de nos anciens UFM ici en France, sont désormais équipés pour livrer une formation continue aux professeurs des écoles sur place, des professeurs qui sont souvent contractuels et qui n'ont pas forcément les bagages adéquats pour répondre aux questions de leurs nombreux élèves. Alors comment s'élaborent les fiches destinées à ces professeurs? Comment ces professeurs se les approprient-ils pour les exploiter pendant leurs cours? Et enfin, comment s'organise toute la partie logistique dans un pays en reconstruction depuis 2 ans? C'est ce que je vous propose de voir en compagnie de nos 3 invités au studio de Canal Académie, Reynold Telfort, David Lasserre et Sylvain Tossac. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Nous avons la chance de vous recevoir tous les 3 à Paris puisque vous participez actuellement à un séminaire à l'Institut de France sur le programme de formation à distance des maîtres haïtiens pour justement faire le point sur ce qui a été fait depuis 1 an et tout ce qu'il vous reste à développer. Donc j'imagine que c'est une lourde tâche. Je vous présente à nos auditeurs. Reynold Telfort, vous êtes directeur de la DEF, Direction de l'enseignement fondamental, au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle haïtien. David Lasserre, vous êtes conseiller technique pour le français et la formation, missionné auprès de la DEF, donc Direction de l'enseignement fondamental en Haïti, et missionné auprès de la DEF par le ministère des Affaires étrangères. Et vous vous intéressez plus particulièrement aux questions de français. Nous y reviendrons en cours de cette émission. Enfin, Sylvain Tossac, vous êtes conseiller TIS, TIS voulant dire technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, conseiller TIS donc à l'Académie de l'Hérault. Donc merci à tous les 3 d'être avec nous. Si vous le voulez bien, revenons sur le fonctionnement même de ce réseau, de la conception des modules à leur réception en Haïti. Question toute bête, comment ça marche? J'imagine déjà tout d'abord pour élaborer des fiches clés en main. David Lasserre, peut-être pour commencer.
Donc oui, puisqu'on part directement sur la pédagogie, je vais tenter d'expliquer comment fonctionne le système de formation qui est en place et quelles ressources pédagogiques on essaie de mettre en place dans le cadre de ces formations qui se déroulent effectivement dans les EFACAP. Donc, plutôt que de fiches, on parle plutôt en Haïti en général de modules qui existent dans 6 disciplines différentes. Les mathématiques, le français, les TIS, l'inclusion scolaire, on pourra peut-être revenir sur ce terme, la santé et les sciences expérimentales. Donc il s'agit d'équipes françaises qui sont basées en différents endroits en France et pour ce qui me concerne en Haïti directement, des équipes qui créent des contenus pédagogiques, qui sont pas seulement des contenus, qui sont aussi des modules de formation. Donc il s'agit véritablement de permettre aux enseignants haïtiens d'acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques. Les contenus sont un prétexte à l'acquisition de ces méthodes, donc sont créés dans ces 6 disciplines pour des rencontres qui ont lieu chaque vendredi, dans 2 disciplines différentes chaque vendredi. C'est donc ce travail sur les contenus qui est fait à la fois en France et en Haïti, puisqu'on travaille sur un principe qu'on a appelé l'itération, c'est-à-dire un ensemble d'allers-retours entre la France et Haïti pour travailler sur ces modules et améliorer à la fois les contenus et les approches pédagogiques des modules dans différents domaines. Et au terme de ce processus d'itération, qui dure à peu près 1 mois, la formation peut avoir lieu dans les EFACAP.
Alors, Reynold Telfort, j'imagine qu'effectivement, ces allers-retours dont vient de parler David Lasserre sont nombreux, puisque entre les conseillers pédagogiques qui travaillent en France et puis les conseillers pédagogiques haïtiens, il doit y avoir des écarts.
Oui, bon, et effectivement, on a des concepteurs français qui ne connaissent pas trop bien la réalité et les situations des salles de classe en Haïti. Bon, ils ont été briefés certainement, mais bon, ils travaillent sur la production des modules. Et je pense qu'il est intéressant, c'est que on a une équipe en Haïti qui reçoit les propositions de modules et regarde au niveau lexique, au niveau structure, qu'est-ce qui est entendable et compréhensible en Haïti, au niveau des méthodes aussi, donc on fait des propositions, et sur cette base, on renvoie les commentaires ici en France, et dans une dynamique d'aller-retour, d'échange adulte, parce que chacun est libre, hein, suivant ses représentations, de faire évoluer les choses. On essaie, dans un premier temps, de finaliser les modules qui vont passer dans les salles de classe. Donc, il y a un deuxième niveau. Les enseignants sont reçus, comme David le disait, en formation chaque vendredi. Mais déjà, nous avons, au niveau de ces EFACAP, parce qu'on parlait d'EFACAP, il faut peut-être qu'on fasse une petite précision autour de ce concept. C'est une nouvelle structure qu'on essaie d'installer au niveau des écoles haïtiennes. En fait, c'est un réseau d'écoles qui mettent ensemble leurs ressources pour que ces écoles-là aillent vers la qualité et le renouveau pédagogique. Donc, il y a une école centrale avec des conseils pédagogiques et avec des infrastructures adéquates pour travailler sur les formations. Les enseignants viennent en formation. Les enseignants et les conseils pédagogiques vont dans ces écoles visiter les enseignants pour les accompagner dans la mise en œuvre des formations. Donc, en fait, c'est un processus extrêmement structuré avec, premier temps, interaction entre les concepteurs et un certain nombre de conseillers pédagogiques. Maintenant, les conseillers pédagogiques accompagnent les enseignants les vendredis sur les modules, mais ultimement, ces modules vont être expérimentés au cours de la semaine suivante dans les écoles. Et on demande aussi aux enseignants de donner des rétroactions par rapport au comportement des élèves, par rapport au module, hein, comment au contenu, qu'est-ce qui est compris par les élèves, pour continuer une deuxième boucle, hein, d'itération.
Alors effectivement, on va revenir en détail sur cette interaction nécessaire avec les professeurs des écoles. Auparavant, peut-être une question peut-être un peu plus technique. Je me tourne vers vous, peut-être Sylvain Tossac. Il y a combien d'EFACAP actuellement en Haïti et combien sont équipés à travers ce réseau de satellites et combien vont être équipés, j'imagine, avec les années à venir?
Alors pour le nombre, actuellement, nous travaillons avec 4 EFACAP. Nous avons eu une période de test pour nous régler l'année dernière sur 3 mois avec une EFACAP, l'EFACAP de Kenskoff. Actuellement, sur 4 EFACAP, les chiffres, je me tourne vers Reynolds Telfort, ça doit être, j'ai en tête 37 EFACAP.
C'est ça.
Oui.
C'est ça. On a 37 EFACAP au niveau des 10 départements géographiques et 10 départements d'éducation. C'est un peu la structure du ministère. Et on essaie de les mettre en œuvre avec beaucoup de partenaires. Et là, c'est une expérimentation sur ces 4 EFACAP. Mais l'idée, c'est d'aller sur les 37 EFACAP, parce qu'en même temps, on va continuer à mettre en place ces EFACAP. Il faut rappeler qu'on a autour de 16 000 écoles en Haïti. Et
ces écoles publiques?
Non, ces écoles publiques et non publiques.
D'accord.
Et nos EFACAP, c'est une école centrale et 20 écoles associées. On est autour de 800 écoles qui sont réseautées. Donc, ça fait près de 15 000 qui ne sont pas dans les réseaux EFACAP. Et on commence, parce que c'est là le levier de transformation des pratiques pédagogiques. On essaie vraiment de bien expérimenter. Et c'est vraiment un bon programme pour justement travailler sur la finalisation du concept.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, à ces professeurs. Je vous laisserai après la parole à Sylvain Tossac. Venons-en à ces professeurs. Est-ce que ces formations continues sont basées sur le volontariat? C'est-à-dire que ce sont les professeurs qui sont en demande d'information et viennent volontairement à ces EFACAP? Ou est-ce que, au contraire, non, ce n'est pas basé sur le volontariat? C'est-à-dire qu'ils ont pour obligation de venir se former. Comment ça se passe, Reynolds Telfort?
C'est à peu près les deux. Parce qu'on a un réseau qui est constitué de 20 écoles et les écoles sont, pendant longtemps, associés à l'EFACAP, et il y a des contrats de partenariat signés entre les écoles associées et la direction de l'EFACAP. Sur les questions de formation, les écoles associées s'engagent à participer aux actions de formation. Et bon, pour cette action, on ne pouvait pas prendre tous les enseignants du réseau. Donc, les directeurs d'école ont choisi des enseignants dans un premier temps, qui vont participer à la formation, mais à terme, c'est tous les enseignants du réseau qui vont participer à ces formations. Donc, on aura d'autres promotions pour continuer. Donc, le réseau, c'est une obligation pour les enseignants de participer aux formations, mais on ne peut pas dire qu'il y a des sanctions, mais bon, c'est contractuel. Les enseignants des écoles associées savent que l'une des conditions pour rester dans le réseau, c'est de participer aux formations.
David Lasserre, au début de cette émission, vous nous avez donc parlé plus que de fiches, de modules, donc en français, en mathématiques, en sciences en général, et vous avez parlé d'inclusion scolaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qu'on appelle inclusion scolaire ?
Oui, bah donc là, on peut revenir sur ce terme. Ici, le partenaire français engagé est l'INSHEA, qui s'occupe particulièrement des questions de handicap et de handicap à l'école. En la personne de Daniel Beauvais, qui est le concepteur de ce module d'inclusion scolaire. Ici, l'objectif, c'est d'amener les enseignants stagiaires à réfléchir à la question, disons, la question suivante, comment faire en sorte que tous les élèves d'une classe travaillent ? Comment faire en sorte que des élèves ne soient pas laissés sur le côté, notamment dans des classes nombreuses de parfois 50, 60 élèves ? Comment faire en sorte que ce ne soit pas seulement les deux premiers rangs qui travaillent ? Et comment ne pas, négliger des élèves qui pourraient présenter des difficultés d'apprentissage, avec lesquels c'est plus difficile de travailler, justement, d'amener tous ces élèves à un niveau donné. Donc il s'agit vraiment de travailler sur des méthodes d'inclusion, inclusion par opposition à l'exclusion. Comment faire en sorte que tous ces élèves puissent travailler ensemble, puissent prendre part au débat, développer leur regard critique, puissent interagir avec l'enseignant et avec leurs camarades. Donc pour que tous ces enfants puissent bénéficier de ce qui est dispensé dans la salle de classe.
Parce que j'imagine qu'actuellement, les cours qui sont dispensés, on comprend bien, en tout cas on l'imagine bien, quand il y a 50 ou 60 élèves, ce sont des cours magistraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'interaction avec les élèves, sinon ça deviendrait très difficilement gérable.
Traditionnellement, dans le système scolaire haïtien, c'est effectivement le modèle frontal qui est encore, disons, largement en vigueur. L'objectif justement de ce programme, c'est d'introduire de nouvelles approches, c'est de faire en sorte que même dans des classes nombreuses, on puisse avoir une méthode participative. C'est possible, c'est plus difficile, évidemment. Tous les élèves ne vont pas parler 10 fois pendant un cours, c'est certain. Mais c'est possible de changer l'approche frontale, de transmission, simple transmission du savoir vertical de l'enseignant aux élèves. Le but, c'est vraiment d'entrer dans l'ère participative, dans l'élève qui construit son savoir, dans l'élève qui remet en question ce qu'il croyait savoir, pour se diriger vers, les choses qu'on souhaite lui enseigner. Donc c'est vraiment le cœur de ces modules. Hein. Dans chacun des modules, le but est de promouvoir cette approche participative.
Alors une autre difficulté, j'imagine, à laquelle peuvent être confrontés ces professeurs, c'est aussi les différences d'âge. Parce que sur 50 ou 60 élèves, j'imagine que les écarts sont assez importants. Reynold Telfort.
Oui, effectivement, comme le dit David, il faut comprendre que ce programme, on l'a monté après le 12 janvier 2010. Avec beaucoup de partenaires français, et c'est l'occasion pour moi de remercier encore les Français. Il y avait, vous ne savez pas, mais c'était une grande disponibilité quand je vois Monsieur Blamont, Monsieur Linal, des sommités qui sont au service des jeunes haïtiens. Je me dis, c'est un grand moment. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même beaucoup d'estropiés, etc. Et se posait le problème de l'inclusion aussi des jeunes handicapés, etc., dans le système. Et en même temps, en posant le problème des jeunes handicapés, on posait, comme David le disait, le problème des jeunes que l'école exclut par les méthodes, par peu de considération sur leur style d'apprentissage, leur vécu, leur intériorité. Et c'est pourquoi, justement, on a travaillé cette question inclusion des handicapés, mais inclusion aussi des handicapés que le système produit. Et sur cette base, on a une situation permanente au niveau de l'école haïtienne, c'est la situation effectivement des suragés. Il faut compter par exemple, après 6 années de scolarité, 80% des élèves qui ont 2 ans de plus que l'âge qu'ils devaient avoir dans cette classe. Une fois qu'ils ont plus que 2 ans par rapport à ça, ils sont considérés comme des suragés. Et vous comprenez facilement que un enfant de 6 ans qui est avec un autre de 9 ans, c'est pas la même chose. Parce qu'il faut aller chercher tous les élèves. Et on ne peut pas aller chercher un élève de 6 ans de la même manière qu'on va chercher, intéresser un élève de 9 ans. Ça, c'est une problématique très forte. On est en train de travailler sur cette problématique en donnant de nouveaux outils aux enseignants pour aller chercher ces élèves-là dans leur vécu. leur situation pour les intéresser, pour qu'on ne crée pas une masse d'abandon, pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'abandon. En fait, c'est du gaspillage, parce que quand les élèves n'arrivent pas à un niveau où les compétences sont sécurisées, on perd de l'argent.
Sylvain Tossac, comment les technologies peuvent justement contribuer à rétablir un équilibre justement pour limiter ces difficultés et justement ces différences entre les élèves et l'accès à l'information?
Alors on est parti sur une formation au niveau des contenus, c'était la commande qui nous avait été faite au départ, avec un gros enjeu sur l'utilisation des nouvelles technologies. En fait, on est vraiment sur le C de TIS, sur la communication et sur la mise en lien de personnes des deux côtés de l'Atlantique, français et haïtien. On est, par exemple, pour le processus d'itération, en lien permanent avec les conseils pédagogiques, l'équipe de la direction de l'enseignement fondamental, pour améliorer les contenus et pour faire un transfert de compétences. Donc là, on a sans cesse dans l'idée de transférer nos compétences de formateurs pour que ce processus qu'on amorce se poursuive en Haïti avec les Haïtiens. L'objectif est de pouvoir s'arrêter d'ici quelques temps et que ce qui se passe sur les premiers FACAP se continue par la suite. Et pour les nouvelles technologies, donc là on va différencier, puisqu'on prend la différenciation, aussi travailler à deux niveaux, c'est essayer de dégager parmi les FACAP qui sont un petit peu en pointe, certaines classes et certaines écoles qui vont pouvoir justement s'approprier ces nouvelles technologies et en faire bénéficier quelques élèves qui, par la suite, vont pouvoir développer ces compétences et avoir un effet boule de neige, je dirais. Donc, en fait, on essaye de développer l'utilisation des nouvelles technologies dans quelques classes pour que les Haïtiens et nos collègues haïtiens puissent s'appuyer sur cette masse d'informations et décrypter cette masse d'informations et pouvoir faire progresser les autres classes par effet levier.
Parce que les modules que vous proposez actuellement, ce sont donc destinés aux professeurs, pas aux élèves.
Alors, on travaille à deux niveaux. Très vite, donc la commande qui nous avait été effectuée au départ, c'était de fournir des contenus d'enseignement pour les professeurs qui soient directement applicables en classe. Il faut que, comme l'a dit David, dans la semaine, les enseignants puissent l'appliquer pour qu'ils se les approprient et puis que ce soit pérennisé. Très vite, on est passé au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on conçoit des contenus de formation pour l'encadrement, donc pour les conseillers pédagogiques. Je travaille au sein d'une équipe de circonscription en France avec des conseillers pédagogiques où nous avons la circonscription française, c'est une inspection avec des écoles autour, une trentaine, une quarantaine d'écoles. C'est assez similaire dans la structure à ce qui se passe dans une FACAP. Donc on travaille à un transfert de compétences des équipes d'encadrement françaises pour que les équipes de conseillers pédagogiques, directeurs des FACAP puissent prendre en charge cette formation et poursuivre. Donc on travaille au niveau des élèves, puisqu'on leur fournit des contenus. En TIS, par exemple, on fournit directement des applications ou des petits logiciels éducatifs que les élèves vont utiliser. On travaille au niveau des enseignants, puisqu'on leur fournit des contenus de formation qu'ils vont mettre en œuvre en classe. Et on travaille au niveau des conseillers pédagogiques, puisqu'on leur dévoile un peu nos pratiques et on les fait réfléchir sur leurs pratiques pour qu'ils puissent, eux, continuer par la suite à encadrer et à poursuivre le programme sans nous, j'allais dire.
Alors aujourd'hui, donc, vous nous le disiez, 4 FACAP hein, travaillent avec vous dans ces échanges de modules, enfin en tout cas d'élaboration de modules. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Vous pouvez déjà tirer les premières conclusions? Qu'est-ce qu'il vous reste à améliorer? Est-ce que vous avez établi peut-être aussi une grille d'évaluation, ne serait-ce que pour les professeurs et à défaut pour les élèves? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser comme résultat, David Lesser?
Oui, alors sur la question des modules, comme l'a dit M. Telfort tout à l'heure, la question de l'itération est absolument centrale, c'est-à-dire ces allers-retours entre les équipes françaises et haïtiennes, puis, dans un deuxième temps, le retour sur expérimentation en classe. C'est vraiment ça qui permet d'atteindre, disons, un niveau satisfaisant pour les modules. Pour l'instant, ce niveau est atteint dans certains cas, dans d'autres cas, du travail reste à accomplir. Et le processus s'est mis en place, s'est consolidé cette année. Donc on en est aujourd'hui à, disons, on a dégagé une méthode qui nous paraît satisfaisante pour la conception puis la consolidation des modules. On souhaite arriver à un produit, entre guillemets, qui soit réutilisable Par contre, on a développé des outils qui nous paraissent aussi maintenant satisfaisants, mais qui restent à mettre en œuvre sur le terrain, sur le long terme. Aujourd'hui, on a des retours déjà qui semblent satisfaisants. Ça peut être des observations empiriques, ça peut être des retours qu'on a par les conseillers pédagogiques, hein, qui sont les clés de voûte de ce système de formation sur place.
Tous les professeurs exploitent les modules que vous leur
Alors, les enseignants ont, par contrat signé, hein, les stagiaires enseignants ont signé un contrat au début de la formation, ils s'engagent à mettre en œuvre les acquis de formation. C'est-à-dire que les formations, comme l'a précisé Sylvain, les formations vraiment visent à proposer des activités qui seront exactement répliquées dans la salle de classe. Il ne s'agit pas de formation théorique ou formation didactique, bien que cette formation intervienne de par le fait, mais il s'agit vraiment de proposer aux enseignants des modèles d'activités qui pourront dupliquer exactement dans leur salle de classe. Donc ce qui ne va pas évidemment sans certaines difficultés, hein, puisque les concepteurs sont français, et bien qu'il y ait un processus assez long qui permette de revenir pas mal sur les modules, on a toujours à la fin dans la salle de classe des surprises. Donc la deuxième boucle, comme on l'appelle, la deuxième boucle d'itération, un concept proposé d'ailleurs par le professeur Blamont, la deuxième boucle d'itération en classe est vraiment très importante. Le retour des enseignants, le retour des conseillers pédagogiques, c'est ça qui nous permet de faire un deuxième retour sur ces modules, de faire un retravail sur ces modules pour arriver à un produit convaincant.
Il me reste quelques minutes pour conclure cette émission. Je voudrais vous donner le mot de la fin, Reynold Telfort. J'imagine qu'à terme, à travers ce que vous avez dit, Sylvain Tossac et David Lasserre, l'idée, c'est d'obtenir aussi l'autonomie, que ces conseillers pédagogiques haïtiens s'approprient ces outils et après faire fonctionner ce gros paquebot qui est en train de se mettre en route.
Bien, ça, c'est extrêmement important.
À quel horizon, à quelle échéance vous envisagez justement cette...
On est dans la fondation, on est dans la construction de l'humain. Et il faut se donner du temps pour revenir à chaque fois. Et chaque jour, je pense que déjà, on constate des changements. Et comme David le dit, au niveau des conseillers pédagogiques, ils ont reçu pas mal de formations dans le temps, gros volume de formations. Mais au niveau de la mise en œuvre, quand tu les vois avec les enseignants, dans les rétroactions avec les enseignants, c'est pas un conseil pédagogique. Je pense que on est en train de mettre en place une culture avec des analyses de pratique, avec éducation du regard du conseil pédagogique, le mettre dans une position effectivement de formateur pour qu'il élabore, mais pour que lui, il grandisse dans ses relations avec les enseignants. On constate aussi, on n'a pas encore d'évaluation systématique, mais les enseignants, avoir les courbes de présence dans les formations alors qu'on ne leur offre rien. Hein, il y a des courbes de présence, c'est extrêmement des écarts entre les cohortes de début et les cohortes jusqu'à présent sont vraiment satisfaisantes. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'ils aiment beaucoup le cours technologie, le module technologie, et parce qu'ils ont accès à l'ordinateur, parce qu'en même temps, c'est un bel appât. Et on essaie de les diriger vers des outils maintenant qu'ils peuvent décrypter, qu'ils peuvent analyser et utiliser dans les salles de classe pour une plus-value par rapport à ce qui est proposé. Au niveau des élèves, on constate quand même un élan vers des questions d'observation, émission d'hypothèses, beaucoup plus de prise de parole. Donc je pense qu'on est vraiment en route, hein. Et peut-être que à partir de cette expérience qu'on est en train de réaliser, on va construire une intervention un peu plus large et essayer de fédérer des financements importants qui sont aussi gaspillés pour que justement on ait un projet de sens qui puisse nous permettre dans 10 ans d'avoir des Haïtiens dignes, compétitifs, non seulement par rapport aux jeunes, aux autres Haïtiens, mais avec le Chinois, avec le Français, de son âge, qui puisse valablement contribuer à l'humanisation du monde, on va dire comme ça.
Et je vous remercie d'être venus nous voir tous les trois. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait un site internet qui allait prochainement se mettre en route pour justement montrer tout ce qui était en train de se faire sur ces relations franco-haïtiennes pour la formation des maîtres. Donc, j'invite à nos auditeurs à aller sur ce site qui va être prochainement mis en ligne. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un an, si vous voulez bien, pour faire le point sur l'évolution de ces actions. Merci à tous les trois et à bientôt pour une prochaine émission.
Au revoir.
Mmh.